Vous écoutez France Culture.
Heures, c'est le moment de retrouver Pierre Chevalier.
Sur les docks. Bonjour, sur les docks, lors du documentaire sur France Culture. Quatrième et dernier volet de notre série intitulée « Affaires à suivre ». Il y a quelques mois, notre émission avait diffusé un documentaire sur les intoxications pouvant être générées par le mercure présent dans les amalgames dentaires. Le mercure est aujourd'hui reconnu comme l'un des toxiques les plus puissants du monde. L'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Norvège ont restreint l'utilisation des amalgames dentaires contenant du mercure. Mais les autorités scientifiques sont en désaccord sur les dangers d'une intoxication au long terme par l'effet de quantité de mercure dégagée lors de la pose ou de la dépose des amalgames dentaires. Néanmoins, des familles continuent à lutter pour la reconnaissance officielle de l'intoxication au mercure dentaire. Peu de gens partagent leur combat, mais le processus d'alerte est cependant lancé d'une façon irréversible. Écoutez tout de suite le documentaire d'Inès Leroux réalisé par Yvon Croisier et intitulé Les Mercuriens 2, la naissance d'un procès de santé publique.
Les Mercuriens, Inès Leroux, Lionel Quentin.
Bah, ça fait peur, pensez-vous que je suis fada. Ce que j'ai appris dans mon ancien boulot, ma meilleure amie me l'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est que les gens dans mon dos, ils faisaient le signe que j'étais fada, alors que j'étais malade.
On peut lire dans de nombreuses études internationales que l'intoxication chronique au mercure serait un des déclencheurs de maladies auto-immunes et de la maladie d'Alzheimer. Mais dans ses conclusions remises au dentiste, l'autorité sanitaire n'en fait pas mention et écrit, je cite, « Les amalgames sont des matériaux utilisés depuis plus de 150 ans et dont l'efficacité thérapeutique est reconnue ».
Si les pouvoirs publics, si les autorités sanitaires continuent de refuser de nous écouter avec objectivité, si on continue de nous envoyer vers des psychiatres quand on se plaint de symptômes alarmants et réels, si on continue de nous balancer des expertises que je ne m'explique pas, eh bien tant pis, ce sera la voie judiciaire une fois de plus. Le sang contaminé, les hormones de croissance, les vaccins. On est obligé de passer par là, et bien tant pis, on passera par là.
Les Mercuriens, 2. La naissance d'un procès de santé publique. Yvon Croisier, Inès Leroux.
Mon nom est Véronique. Comme beaucoup d'autres d'entre nous, c'est l'émission sur France Culture, Mercuria, qui m'a révélé que je suis effectivement fait partie des intoxiqués de métaux lourds. Et vraiment pour moi, dans mon cas, c'est par les amalgames dentaires de mercure. J'en ai une dizaine, dont deux très gros. En fait, je suis très en colère contre le dentiste qui m'a fait ça, mais en même temps, quand je vois comment les dentistes français ont été formés, je me dis, est-ce que c'est vraiment leur faute? Je ne sais pas.
Oui, bonjour, je suis médecin généraliste et ostéopathe sur la France. J'ai découvert récemment le livre de Françoise Cambérac sur les amalgames dentaires. J'étais à la recherche effectivement d'explications, ayant dans mon cabinet beaucoup de dossiers en attente avec des diagnostics de fibromyalgie, de maladies auto-immunes entre autres. Et dans le nombre grandissant de ces dossiers, j'étais de plus en plus perplexe et atterrée. Je voudrais qu'on nous donne les moyens d'abord de dépister les gens, puis de les traiter et d'avoir accès à une formation, évidemment. évidemment après reconnaissance du problème par les autorités sanitaires. Il est urgent d'intervenir car le nombre de dossiers est impressionnant. Ne serait-ce que moi-même pour un simple cabinet de médecine générale, j'en ai suffisamment pour me mettre au travail. Voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer afin d'alerter les pouvoirs publics. Merci, au revoir.
Je suis confrontée à des troubles d'équilibre. J'ai du mal à me tenir droite. J'ai bien du mal à tenir debout. Les maux de tête, les douleurs lancinantes qui apparaissent à droite et à gauche. C'est fort sympathique. Là, je sors d'une consultation au centre antidouleur où j'ai fait part du témoignage qui a été diffusé sur France Culture. Je ne sais pas si, comment dire... j'essaierai de rappeler parce que j'arrive pas à m'exprimer. Au revoir, bon courage.
Bonjour, je m'appelle Jean Ménézot, intoxiqué chronique au mercure depuis près de 20 ans maintenant, avec des vertiges, crises d'angoisse, oppression respiratoire, dérèglement des transaminases, impression de brûlure dans les jambes et tremblement dans les jambes et dans les mains. En 2003, je découvre ce dont je souffre grâce au docteur Jean-Jacques Melet. Je fais déposer mes 11 amalgames de manière précautionneuse et 90% de mes symptômes ont disparu ou sont maintenant supportables. À très bientôt, j'espère, et bon courage et encore bravo à ce que vous faites.
André Bolzinger, habitant le Lot, je vous passe un témoignage concernant ma fille Danielle. Dans l'année qui a suivi la pose de 5 amalgames, ma fille Danielle, âgée d'une vingtaine d'années, et infirmière à l'époque, a commencé à faire de la dépression qui est devenue rapidement très grave. Bien entendu, puisque personne n'avait ni établi ni soupçonné la cause, elle a continué à se faire soigner les dents. Dans les années qui ont suivi, 11 amalgames nouveaux lui ont été mis en bouche, ainsi que plusieurs couronnes en or. Son état n'a fait que s'aggraver malgré des soins intensifs. J'énumère quelques symptômes. Troubles dépressifs, grande fatigue chronique, troubles du sommeil, manque d'énergie et difficultés décisionnelles, difficultés de concentration, vertiges, bouffées d'angoisse, irritabilité parfois violente, spasmes musculaires, sinusite chronique, tachycardie, troubles du rythme cardiaque, maladie de Crohn, sécheresse dermique, etc. Un vrai calvaire. Principalement pour elle, mais également pour l'entourage, du fait des contraintes que cela implique, mais surtout parce qu'il est extrêmement pénible de voir souffrir et partir dans la déchéance un être que l'on aime, tout en se sentant impuissant à lui venir en aide. Au cours de l'été 98, mon attention fut attirée par un article traitant du danger des amalgames dentaires. Avec ma fille, nous avons décidé de faire réaliser des analyses de recherche du mercure. Malheureusement, les tout premiers jours de novembre, ma fille a eu un très grave trouble de rythme cardiaque avec syncope. Elle fut hospitalisée en cardiologie le samedi 7 novembre, et malgré les soins et la surveillance hospitalière, elle fit à nouveau plusieurs syncopes. Dans la nuit du dimanche au lundi 9 novembre, en faisant sa ronde de 1h30, l'infirmière la trouvait morte sur son lit. Les résultats d'analyse me parvinrent deuxième semaine de décembre. Un taux énorme de mercure dans la salive. 1391 microgrammes par litre de salive. Avec des taux également beaucoup trop importants d'argent, de cuivre et d'étain. Étant donné ces résultats d'analyse, il est certain que ma fille était fortement intoxiquée par le mercure et les métaux argent, cuivre et étain, composant des amalgames dentaires, que les symptômes de sa maladie correspondent totalement à ceux annoncés par les spécialistes toxicologues. On peut raisonnablement penser que tous ses problèmes de santé, ainsi que son décès, sont dus à cette intoxication dont la source ne peut être que les amalgames.
Thank you.
Un père qui prend en charge sa fille, une fille qui prend en charge son père. Tous les deux ne se connaissent pas, mais ont croisé le même médecin. Peut-être le même destin. Le combat qui a mené Claire et sa famille jusqu'aux portes du tribunal de Limoges décrit l'intime conviction et l'opiniâtreté d'une jeune femme à trouver la cause de la maladie d'un père. La naissance d'un procès de santé publique, c'est l'histoire de combats sans pareil, de combats individuels qui se rejoignent pour contester une même certitude médicale.
Le dossier de l'amalgame dentaire, il est identique, c'est le frère jumeau de l'hépatite B, c'est le frère jumeau du sang contaminé et c'est le frère jumeau de la radioactivité de Tchernobyl. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les mêmes comportements idiots de tous les ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc on en est là aujourd'hui. On a quelque chose qui est essentiel, c'est que on a la preuve d'une intoxication aux métaux lourds. Voilà, maintenant on l'a. Et je pense que pour la première fois, je ne me trompe pas, je pense que pour la première fois en France, il y a un juge d'instruction qui a à son dossier un décès et la preuve d'une intoxication aux métaux lourds. Voilà.
Ça a commencé à la fin du mois d'août 2003. Où on est tous partis en vacances en Corse avec mes parents, mon frère, ma sœur, Mathieu, mon mari maintenant. Et en fait, mon père venait de faire des travaux assez importants chez le dentiste et tout allait très bien. On est partis faire ce voyage. Et au cours du voyage, on s'est aperçu très rapidement qu'il avait du mal à retenir son bras de bouger tout seul. Et au retour de Corse, notre voyage a duré seulement une semaine, les mouvements étaient de plus en plus forts. Son médecin ou son kiné lui a dit que c'était une surcharge de stress, que c'était pas très grave et que ça allait se résorber. Au début du mois de septembre, ma sœur a déménagé. Et là, il a même pas pu l'aider à déménager, à porter quelque chose pour son déménagement à Paris. Parce que, en fait, d'un geste du bras, son bras partant tout seul, il s'est retrouvé à avoir, à fréquence très régulière, ses deux bras qui bougeaient tout seul, son torse qui partait d'avant en arrière et sa tête qui remuait à l'inverse de ses bras. Donc tout le haut de son corps était en mouvement perpétuel. En l'espace de 15 jours, 3 semaines. Il a décidé d'aller consulter quelqu'un, un médecin, le médecin de famille de ses parents à Paris. Et du coup, il lui a fait passer une première IRM très rapidement. Et il a pu voir sur l'IRM, qui était un petit peu flou parce qu'il avait bougé pendant l'examen, que a priori, il n'y avait pas de tumeur et que donc il ne savait pas très bien ce qu'il avait. Donc, par la suite, il a essayé de l'envoyer à l'hôpital Henri Mondor, donc en neurologie. Et en l'espace de 2 mois, il avait perdu entre 8 et 10 kilos. Et il était super fatigué, il commençait déjà à ne plus pouvoir travailler, donc il avait un commerce avec ma mère. Et il commençait déjà à plus pouvoir conduire, tout simplement, et puis se dépenser énormément. Toute la journée, ses mouvements s'arrêtaient jamais. Et il y avait seulement le sommeil qui arrivait enfin à lui donner un certain répit. Voilà.
Jean-Paul Davidas, vous êtes chirurgien-dentiste à Paris.
Oui, tout à fait.
Et vous m'avez appelé suite à la première émission sur le mercure dentaire.
Oui.
Parce que vous êtes sensibilisé depuis longtemps à la question.
Oui.
Comment vous avez entendu l'émission?
Comment j'ai entendu? Ben non, je crois que c'est... Les patients m'en ont parlé. Donc, il y a eu un écho immédiat après la diffusion de votre émission.
Et vous, comment vous êtes sensibilisé à la question?
Ça fait longtemps, ça fait une trentaine d'années. Et notre pensée n'a fait que se confirmer dans le sens où on considère que les matériaux métalliques dans le corps humain sont vecteurs de toxicité ou d'immunotoxicité.
Il y a quoi comme matériaux métalliques dans un amalgame dentaire?
Alors, dans l'amalgame, vous avez du mercure principalement, de l'argent, du cuivre, et puis des poudres de perlimpinpin qui ne servent pas à grand-chose. Mais l'agent le plus toxique, c'est le mercure. C'est le mercure qui est le plus toxique, et quand il est mêlé à d'autres matériaux qui peuvent se retrouver dans la bouche, ça vous déclenche des phénomènes électrochimiques qui peuvent être préjudiciables à la santé.
Mais qui est la première personne à vous en avoir parlé et... Vous vous souvenez de ça?
La première personne à m'en avoir parlé, il me semble que c'était le docteur Mellet, il y a longtemps, qui est un garçon qui était médecin à Montpellier. Un autre avant lui m'en a parlé, c'était le docteur Crussol, qui n'exerce plus. Après, il y a une personne de Suisse qui s'appelle Sandaos à Lausanne, qui m'en avait parlé aussi longuement. Puis la littérature que l'on reçoit, la littérature étrangère, fait qu'on s'informe.
Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez essayé d'alerter vos patients ou voir les pouvoirs publics?
Les pouvoirs publics, nous les avons vus il y a très longtemps. C'était en 1984-86, on en a parlé. Il y avait une commission au ministère de la Santé qui était la Commission nationale d'homologation des dispositifs médicaux. Donc on avait évoqué ce problème au ministère de la Santé et nous avons eu, disons, une fin de non-recevoir et on m'a répondu que le sujet n'était pas à l'ordre du jour. Et c'est un petit peu ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Hein.
Voilà. Pourquoi selon vous?
Écoutez, je pense que c'est un petit peu d'obscurantisme. Est-il volontaire ou est-il passif? Je ne sais pas, mais... Il est évident qu'il y a un blocage qui m'échappe. Alors vous pourrez lire l'article, tout au moins le commentaire qui est sorti la semaine dernière dans la revue du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Vous verrez qu'il est relaté que les amalgames dentaires sont empreints de toute innocuité. Ce qui fait que nous sommes confrontés exactement au même problème qu'il y a 30 ans. Cherchez l'erreur.
Donc, tout au long de l'année, il a continué à perdre du poids. Et ça a commencé à être assez inquiétant. Donc à la fin de l'année, on est passé de Henri Mondor, où on lui a expliqué qu'il allait mourir. Voilà, en lui balançant une boîte de médicaments, en disant « Ouais, vous pouvez prendre ça, mais en gros, je peux rien pour vous, monsieur, vous allez mourir. » Ensuite, on s'est débrouillé pour le faire rentrer par l'intermédiaire d'amis à la salpêtrière, parce que pareil, on avait toujours beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des consultations alors que son état était vraiment très grave. Et surtout, il n'y avait toujours aucun diagnostic de fait. Personne n'arrivait à expliquer exactement ce qu'il avait. Donc, du coup, il est sorti de la pitié salpêtrière avec une première médication, le nom d'une maladie, donc une dystonie, et avec une certaine explication et une possibilité d'une opération où on pourrait lui implanter peut-être des électrodes dans le cerveau pour tempérer ses mouvements comme on le fait dans Parkinson. Seulement, il avait 57 ans et on n'avait jamais fait d'opération sur une personne aussi âgée. Et cette opération, au bout de 3 mois d'attente, de rendez-vous à Saint-Antoine, cette opération lui a été refusée en 5 minutes, comme ça, entre deux portes, sans explication, en lui disant qu'il ne rentrait pas dans le protocole, qu'il avait qu'à retourner à l'hôpital le plus près de chez lui, que c'était pas la peine qu'il vienne à Paris pour se faire soigner, que voilà. Donc maintenant, le CHU de Limoges allait pouvoir le suivre et que ce serait... bien comme ça. Donc jusque-là, il n'a fait que prendre des médicaments assez forts. Et au lieu de le calmer, ça me mettait dans des crises beaucoup plus fortes. Avec parfois, on se demandait s'il fallait retourner à l'hôpital. On appelait l'hôpital, il nous disait qu'il fallait continuer, qu'il fallait augmenter les paliers des médicaments, toujours augmenter les doses prescrites. Et mon père, il tenait pas le coup, quoi. C'était de pire en pire, il maigrissait de plus en plus et il tolérait aucun médicament. Donc là, on est à peu près en avril-mai 2004, donc il s'est passé presque un an et on n'a toujours pas de solution. Il a déjà écumé la plupart des grands hôpitaux de la neurologie à Paris et il se retrouve au CHU de Limoges où on ne lui donne pas plus de pistes. On le met en observation pour lui prescrire des antidépresseurs parce qu'on pense qu'il a un grave trauma psychiatrique qui l'oblige à bouger comme ça partout et que c'est à peu près la seule solution qu'on trouve. Et mon père continue donc à essayer des médicaments. Ensuite, au CHU, on lui a même demandé de passer devant les élèves de l'université pour faire une démonstration de tous les gestes qu'il pouvait faire, quoi. Donc il a défilé en caleçon devant toute l'université, en lui demandant de se mettre sur un pied, sur un autre pied, de tourner, de retourner. Et à la fin, on lui a dit « Merci, monsieur, au revoir ». Et il a dit « Mais je suis venu pour rien cette fois-ci, parce que quand même, le CHU de Limoges, c'est à 120 km de chez nous, donc on n'y va pas pour rien, on n'y va pas pour pas passer un examen ». Et on lui a dit, oui, c'est de toute façon, on peut rien pour vous, donc c'est bien, c'est comme ça. Et là, ce jour-là, il y avait la neurologue de Saint-Antoine, donc la personne qui l'avait suivie juste avant. Et du coup, mon père l'a regardé, il lui a dit, vous êtes repassé la patate chaude, vous vous êtes débarrassé de moi, donc maintenant tout va très bien. Elle dit, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, il se retrouvait toujours sans espoir à Limoges, avec toujours sa maladie, son état qui s'aggravait.
Et vous m'avez laissé un message suite à la première émission, pour me dire que vous aviez été très touché par les témoignages.
Oui, exactement. J'avais écouté ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je m'étais arrêté sur l'autoroute. Ça devait être 11h ou 11h30. Je suis resté jusqu'à minuit ou 1h du matin de mémoire. Je ne me rappelle pas très, très bien. Et j'ai écouté l'émission jusqu'au bout.
Vous étiez sur l'autoroute, en voiture.
Oui.
Et vous m'avez dit que vous aviez été très touché par la dentiste, notamment qui se disait à la fois bourreau et victime.
Effectivement, on peut penser que les dentistes devraient être touchés deux fois plus que les patients parce qu'ils manipulent l'amalgame durant toute leur vie de dentiste. Et c'est vrai que c'est les premiers concernés par ça. Ils devraient être.
Vous, je vais taire votre nom, mais vous venez de l'industrie dentaire.
Oui.
Vous êtes fabricant et vendeur notamment d'amalgames dentaires.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les composants des amalgames dentaires ?
On retrouve principalement quatre métaux dans l'amalgame. Il y a du mercure. Donc c'est de ce métal-là qu'on va servir pour faire une pâte avec de la poudre d'autres métaux. Et on va utiliser du cuivre, de l'argent et de l'étain. Principalement, c'est ce qu'on retrouve dans les amalgames. Et ce matériau est effectivement très, très apprécié par les dentistes. Comment dire ? C'est un peu le 4x4 des traitements dans le dentaire. Il fait absolument tout. Et c'est pour ça que les praticiens l'aiment bien.
C'est le 4x4, c'est un produit tout-terrain, vous voulez dire ?
C'est vraiment un produit tout-terrain.
Et si je peux me permettre, quelles conséquences pour la santé ?
Mais écoutez, je ne sais pas s'il y a une conséquence pour la santé. L'une des questions qu'on s'était posée, c'est effectivement s'il y a des patients qui souffrent d'un certain nombre d'affections. Jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il y ait... pour établir une conséquence, il faut établir un lien de cause à effet, c'est-à-dire établir de façon formelle que ça vient de ce matériau-là ou que ça vient de ces relargages-là, que ça ne vient pas d'autre chose. Donc aujourd'hui, le lien de cause à effet n'a jamais été établi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y ait une conséquence particulière liée à ces matériaux directement. Est-ce qu'il y a un lien indirect ? Je ne saurais pas vous le dire.
Mais vous ne trouvez pas étonnant qu'on cherche à prouver qu'il pourrait y avoir un lien de causalité ? on ne devrait pas plutôt chercher à prouver qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le mercure de l'amalgame et une infection?
Si ça n'a pas été fait, c'est qu'il ne devait pas y avoir de raison de le faire. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'amalgame est un matériau qui a plus d'un siècle et demi, peut-être deux siècles. C'est vrai que c'est un matériau qui a rendu d'énormes services pour la dentisterie. Mais moi, ce que je retiens essentiellement, c'est les principes de précaution qui sont dictés par le Haut Conseil de Santé Publique de France. C'est la principale chose que je garde en mémoire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de patients ne peuvent pas recevoir de traitement à l'amalgame. Des insuffisants rénaux, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des enfants en bas âge. Donc, on ne peut pas recevoir ce type de restauration. En même temps, la dépose et la pose d'amalgame nécessitent un certain nombre de précautions qui n'étaient pas connues par le passé par les dentistes. Je pense que c'est à chacun d'assumer ses responsabilités par rapport à ça. Il y a une incidence avec les vapeurs de mercure lors de la pose et de la dépose, parce qu'on va polir au moment de la pose de l'amalgame et on va fraiser très fortement quand on va le déposer. Et essentiellement, ce sont ces vapeurs de mercure qui peuvent être nuisibles.
Mais est-ce qu'il y a une enquête épidémiologique chez les dentistes pour voir quel est leur état de santé, s'ils ont des affections plus courantes que dans le reste de la population?
Pas à ma connaissance.
Donc on cherche pas, en fait. On cherche pas vraiment.
Enfin, pour chercher, il faut, comme pour toujours, c'est ce que je vous ai dit au départ, pour chercher quelque chose, il faut avoir une raison. Donc s'il n'y a pas une raison déclenchante ou un but derrière une recherche, il n'y a aucune motivation qui va susciter cette recherche.
Vous dites aussi, et j'imagine que tous les industriels disent, nous quand on a une autorisation de mise sur le marché pour un produit, on vend ce produit. Les amalgames dentaires n'ont jamais eu d'autorisation de mise sur le marché.
Pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il faut que ça soit un médicament. Je ne crois pas que ça soit le cas dans le cadre des amalgames et des résines dentaires et des choses comme ça. Donc il n'y a pas d'AMM à demander.
Madame Berthella-Geffroy, vous êtes juge d'instruction au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris. Votre parole est encadrée par le secret de l'instruction. Notamment, vous ne pouvez pas parler de dossier de plainte en particulier.
Non, je suis désolée, mais le secret de l'instruction m'est imposé et c'est normal aussi puisque c'est dans le code de procédure pénale et j'ai aussi l'obligation de réserve, ce qui fait que ce sera un petit peu difficile cette interview. Donc secret médical plus secret de l'instruction plus obligation de réserve. Et voilà.
Vous avez instruit notamment ces 15 dernières années le procès du sang contaminé, des hormones de croissance, de l'amiante, et l'affaire des amalgames dentaires est entre vos mains depuis 2005. En quoi consiste votre travail de juge d'instruction?
Alors, c'est toute la difficulté des affaires de santé publique au pénal. Moi, comme vous l'avez dit, je suis juge d'instruction. Donc, ce sont des délits qui sont applicables. Ce sont les délits de blessure involontaire ou homicide involontaire, c'est-à-dire des délits non intentionnels. On n'a pas voulu le résultat, c'est-à-dire on n'a pas voulu que les gens soient handicapés ou que les personnes contaminées meurent. Ça n'est jamais volontaire dans le code pénal. Il y a des délits non intentionnels et le gros problème de ces dossiers, c'est le lien de causalité, puisqu'il faut des fautes de négligence et d'imprudence caractérisées ou des violations manifestement caractérisées également de la loi et évidemment le dommage. Et entre les deux, c'est le lien de causalité. Et c'est vraiment le plus gros problème de ces dossiers de santé publique ou pénal, au point que certains disent que le pénal est complètement inadapté à ce type de dossier. Aussi avec les amalgames dentaires, donc le mercure, évidemment, personne ne peut dire que ça n'est pas nocif en soi, mais est-ce que les amalgames dentaires avec donc ce mercure sont assez dangereux pour entraîner une incapacité de travail, une incapacité permanente, pour entraîner des dommages sur la santé de ceux à qui on a placé ces plombages, amalgames dentaires.
Marie Grossman, vous êtes biologiste et vous collaborez avec le toxicochimiste du CNRS, André Picot. Un des enjeux du procès, ça va être le lien de causalité. Quelles sont les difficultés pour établir ce lien ?
Donc c'est effectivement une question très, très compliquée, mais qu'on peut quand même simplifier. Alors, je pense que tout le monde peut comprendre aisément qu'à exposition égale, un nombre d'amalgames égal, on n'a pas les mêmes risques d'être malade. C'est exactement comme les fumeurs. Hein. Tout fumeur ne va pas développer un cancer du poumon. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a des gens qui sont bien équipés pour éliminer le mercure, alors que d'autres, pas du tout. Il y a par exemple un facteur génétique bien connu, qui s'appelle APOE4. Eh bien, les personnes qui ont ces gènes, APOE4, sont incapables de se débarrasser du mercure qui se trouve dans leur cerveau. En revanche, ceux qui ont APOE2, c'est un autre gène, ont, eux, des véhicules qui vont pouvoir éliminer le mercure hors du cerveau.
Donc pour vous, est-ce qu'il va être possible d'établir ce lien de causalité pour le procès ?
Ah, ça sera difficile. On a des arguments, hein, puisqu'on a il y a des patients qui ont beaucoup de mercure, qui ont une imprégnation mercurielle forte, mais il faut prendre les bons indicateurs. Il y a une bataille sur les indicateurs, c'est-à-dire que les experts de la FSAPS prennent des mauvais indicateurs. De sang et l'urine, c'est connu hein, pourtant par des scientifiques, ce sont de très mauvais indicateurs pour une intoxication au long terme. On ne trouve plus rien dans le sang et dans l'urine, le mercure est dans les organes, et notamment dans le cerveau, dans les reins. Bon. Donc il faudrait faire des biopsies pour le mettre en évidence, ce qu'on ne peut absolument pas faire. Par contre, des études d'autopsie, là, ont bien mis en évidence que les malades d'Alzheimer ont plus de mercure dans le cerveau que les autres.
Donc les enjeux de l'expertise pour le procès, c'est d'une part que tout le monde à exposition égale ne va pas déclencher des pathologies de manière égale. Mmh. Et c'est aussi qu'on n'a pas les bons outils diagnostiques pour mesurer l'intoxication aux métaux lourds.
On ne prend pas les bons indicateurs, oui.
Et c'est ensuite que si une intoxication aux métaux lourds est révélée, ça sera très difficile de voir si effectivement elle est liée aux amalgames dentaires.
Oui, alors... On peut quand même prouver que l'imprégnation mercurielle est liée aux amalgames dentaires, puisqu'on va retrouver la triade des métaux qui se trouvent dans l'amalgame, hein, c'est-à-dire mercure, argent et tin. Donc si on fait des analyses de sel, on va trouver ces trois métaux. Donc si on a une très bonne méthodologie, c'est ce que faisait le docteur Mellé, on peut être sûr que le mercure vient des amalgames dentaires. Mais par contre, pour être sûr qu'il est à l'origine des pathologies, c'est un faisceau de présomption. On n'a pas la grande étude épidémiologique parce que tout le monde est exposé au mercure depuis souvent la conception et on n'a pas de vrais témoins dans ces études. Mais en revanche, je crois qu'il est facile de montrer que l'on est trompé sur le produit. Puisque l'amalgame contient 50% d'un métal hautement toxique, donc neurotoxique, réprotoxique, mutagène, bon, c'est une molécule CMR. Et ça, personne ne le sait. Quand on va chez le dentiste, on ne le sait pas. Là, je pense qu'il y a une tromperie aggravée. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. On est trompé par le professionnel de santé, qui lui-même est trompé par ces autorités, les autorités dentaires.
Donc voilà, il se retrouvait plutôt sans espoir à Limoges, avec toujours son état qui s'aggravait. Donc par la suite, il est allé consulter en Espagne. On a commencé à rechercher d'autres médecins, si bien que à l'automne 2004, donc au bout d'un an, on a commencé à rencontrer deux personnes qui nous ont parlé peut-être d'une intoxication aux métaux lourds. Donc les deux, ils regardaient dans sa bouche, et effectivement, il avait toujours la langue super gonflée, beaucoup de boutons dans la gorge, et il avait en bouche beaucoup d'amalgame. Et des amalgames qui touchaient des dents en or, le tableau parfait pour l'intoxication aux métaux lourds, en fait. Donc là, les deux personnes lui parlant de ça, ils ont commencé à lui faire des recherches plus poussées, des analyses de sang, des analyses d'urine, et les analyses se sont révélées être très très dosées en métaux lourds. Et là, ça l'a vraiment alerté, celui qu'on avait choisi entre les deux pour le suivre. Et il a commencé à nous dire que bah, lui, il ne pouvait rien faire, qu'il ne connaissait pas les manières de se soigner exactement de désintoxication métaux lourds. Mais par contre, qu'il connaissait quelqu'un qui s'appelait le docteur Mellet à Montpellier et qu'il fallait aller le voir. Donc ça, c'était un moment un petit peu bah, épique, rigolo et tout ça, parce que bah, c'est vrai que téléphoner au docteur Mellet, c'était un petit peu... il décroche et vous dit mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais vous avez rien compris, mais il faut tout recommencer, bon. Alors voilà, on a un rendez-vous enfin avec lui début janvier 2005. Et là, en fait, mon père commençait à être vraiment très très malade. Il faisait plus de 40 kilos alors qu'il en faisait beaucoup plus de 90 avant sa maladie. Il était vraiment dans un état assez... déplorable quand même. Et bon, moi j'y étais pas, mais ce que j'ai compris, c'est que quand le docteur Mellet est sorti de son bureau pour accueillir mon père, là il a vraiment eu un choc. Vraiment, il s'est dit, il nous a, enfin limite il l'a engueulé en disant mais pourquoi vous êtes pas venu plus tôt, c'est pas possible, enfin en gros voilà, vous êtes super malade, c'est vraiment très grave. Et c'était enfin le premier médecin qui accordait quelconque crédit à sa maladie et qui avait une solution. Mais bon, il avait une idée, mais il avait l'air d'être complètement submergé par les problèmes.
Parce que vous avez rencontré le docteur Mellet, en fait, quelques mois avant qu'il ne se suicide.
Oui, on a rencontré le docteur Mellet début janvier. Et on a su très rapidement en fait qu'il s'était suicidé.
Bien, bonjour à tous. C'est aujourd'hui le deuxième colloque organisé par la Fondation Sciences Citoyennes sur les lanceurs d'alerte. Et il intervient exactement 5 ans après le premier, puisque c'était le 29 mars 2003. Je rappellerai que, entre-temps, entre nos deux colloques, l'un des plus anciens et des plus têtus des lanceurs d'alerte, Jean-Jacques Mellet, s'est suicidé. C'était un médecin qui avait alerté pendant 20 ans sur les plombages dentaires au mercure. Il a été épuisé, isolé par l'institution universitaire, et tout ça avec la bénédiction de l'AFSAPS. Jean-Jacques Mellet a donc disparu du monde des gêneurs, et il y a encore 70% des obturations dentaires qui se font avec des amalgames au mercure.
Madame Berthella-Geffroy, le docteur Jean-Jacques Mellet, qui était un médecin épidémiologiste, a été l'une des premières personnes à dénoncer les amalgames dentaires, il y a de cela plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a à chaque procès de santé publique un lanceur d'alerte ?
Dans la pratique, dans les dossiers de santé publique, oui, pratiquement tout le temps. Les lanceurs d'alerte ont toujours un rôle important, mais un rôle, ils ne sont pas toujours entendus. Je sais par le dossier ce qu'a fait le docteur Mellet, je sais par le dossier ses positions et ses... Oui, je crois qu'il a subi des pressions. C'est vrai qu'un statut protecteur du lanceur d'alerte serait une bonne réglementation. Enfin bon, je suis magistrat, je ne suis pas législateur.
Donc ce n'est pas encore le cas, il n'y a pas encore de statut de protection des lanceurs d'alerte.
Non, c'est leurs risques et périls.
Donc dans la nuit, il est tombé dans le coma et ils l'ont emmené, enfin les pompiers sont venus le chercher, donc en Creuse, il neigeait. Donc on l'a fait transporter en hélicoptère et là il est arrivé à la réanimation de Limoges. Et on nous a fait venir dans le couloir avec le réanimateur et il a demandé à ma sœur et à moi pourquoi on s'était aussi mal occupé de notre père. Comment on pouvait amener quelqu'un comme ça dans cet état-là? Et là, on lui a expliqué qu'il se trompait complètement, enfin, qu'on était loin de ne pas lui donner à manger, qu'il mangeait 5 ou 6 fois par jour en essayant de se gaver le plus possible pour essayer de grossir, et que ses collègues neurologues, pour l'instant, n'avaient rien fait, n'avaient même pas réussi à lui faire une IRM claire. On n'avait jusque-là jamais eu lecture de son cerveau. Donc là, le réanimateur a trouvé ça assez bizarre. Et nous, pendant ce temps-là, on pensait, mais il a une intoxication aux métaux lourds et en fait, il faut qu'on en parle.
On est allé voir le réanimateur, on lui dit, voilà, nous on sait, on pense savoir ce qu'il a, vu que vous, vous savez rien. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire un test, comme le docteur Mellet nous l'a demandé. Et si vous voulez le faire, bah voilà, on a les médicaments. Et là, il a organisé une confrontation avec son neurologue, donc de Limoges. Et le neurologue nous a tenu des propos mais complètement horribles en disant que mais qu'est-ce qu'on faisait là à 6h du matin à l'hôpital, on pouvait pas le laisser tranquille alors que il avait failli mourir quoi. Donc quand ton père il va mourir, bah t'espères arriver assez tôt pour être avec lui. Et pas donc il nous a dit qu'on était une famille beaucoup trop envahissante, que c'était à cause de ça qu'il faisait des gestes pour nous repousser, que de toute façon il avait un trauma psychiatrique et que voilà, si qu'il était en gros qu'il était fou quoi, et qu'il croyait pas deux secondes à une intoxication aux métaux lourds. C'est pas en lui faisant un travail sur des dents qu'il a pu tomber aussi malade. C'est pas possible. Vous êtes fou. Il est fou. C'est n'importe quoi. Si bien qu'on nous a expliqué gentiment que bah là il allait falloir un petit peu lâcher le bouc, c'était pas possible, que en gros il y avait d'autres gens qui attendaient dans le service pour avoir des lits en réanimation et que lui en gros on allait peut-être devoir prendre une décision quoi, c'est-à-dire peut-être le débrancher.
Marie Grossman, vous êtes auteur d'une critique du rapport qui a été fait par les autorités sanitaires en 2005 sur les amalgames dentaires et qui conclut à leur innocuité.
Oui, j'ai cette outrecuidance.
Et je pense que l'élément le plus fort de votre critique, c'est la mise en regard des conclusions du rapport français et du rapport suédois. Vous voulez nous en faire part ?
Eh bien, oui, je peux donner vraiment juste quelques petits exemples de ce qui a été relevé dans les conclusions de ces deux rapports. Donc, les Français estiment que les amalgames sont des matériaux utilisés depuis plus de 150 ans, dont l'efficacité thérapeutique est reconnue. Donc, on appréciera l'argument scientifique au passage. Alors que les Suédois, eux, affirment que le mercure est un toxique polyvalent et l'amalgame un matériau non adapté aux soins dentaires. Carrément. Les Français nous disent que dans certaines indications, l'amalgame est irremplaçable, le mieux adapté pour les soins dentaires chez l'enfant. Alors que les experts suédois nous disent qu'il n'est pas compatible avec la science d'utiliser les amalgames chez l'enfant. Alors les symptômes, nous disent les Français, les symptômes décrits par les porteurs d'amalgames ne sont pas attribuables au mercure, mais reflètent des maladies somatiques non diagnostiquées ou des troubles psychiques, voire psychiatriques. Donc, les patients qui se plaignent de leurs amalgames doivent aller voir des psychiatres. Ça se passe dans leur tête, mais pas dans leurs dents. Les Suédois, eux, nous disent que le mercure qui s'échappe des amalgames peut contribuer aux symptômes des patients souffrant de pathologies à étiologie douteuse ou de maladies auto-immunes. Et donc, ils conseillent aux médecins de ne pas éliminer a priori cette cause.
Comment on peut arriver à deux vérités scientifiques radicalement opposées ?
Eh bien, je crois qu'on ne prend pas les mêmes experts, tout simplement. Il suffit de monter un groupe d'experts ils sont sans doute compétents dans leur discipline principale. Hein. Mais en tout cas, pas sur la toxicité chronique, la toxicité au long terme due au mercure. Alors, comment expliquer ça ? On a l'impression que ce rapport est fait pour mettre le couvercle.
Donc, selon vous, il y a une désinformation ?
Oui, ça c'est une évidence. Oui, il y a une désinformation qui fait dire, par exemple, dans des documents officiels du Conseil de l'Ordre, qu'il y a 1000 fois plus de mercure dans le poisson qu'il y en a effectivement. C'est-à-dire, c'est négligeable le mercure dans les amalgames dentaires. Il y en a beaucoup plus dans le poisson. Les poissonniers apprécieront. Hein. C'est le problème, c'est le poisson.
Et pourquoi il y a cette désinformation ?
Bon, quand même, reconnaître que on a minimisé les risques pendant des années, c'est très gênant pour eux. Bon, je pense que ça va les gêner quand même quelque part. Hein. Alors, il y a toujours après la crainte des plaintes. Hein, voilà. C'est-à-dire que si on arrête l'amalgame, faut l'arrêter discrètement pour des raisons d'esthétique, à la rigueur pour des raisons d'environnement, mais surtout pas pour des raisons de santé.
Ces 20 dernières années ont été secouées par de nombreux procès de santé publique et nombre d'entre eux sont d'origine iatrogène, c'est-à-dire que c'est la médecine elle-même qui provoque la maladie. On peut le voir dans l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire des hormones de croissance, du vaccin de l'hépatite B et des amalgames dentaires. Comment expliquer cela et comment ne pas renouveler une énième fois les erreurs du passé ?
Il y a une prise de conscience de la part des citoyens, en fait, de leur droit à avoir des réponses à leurs questions, quand ce sont des questions vraiment importantes qui touchent des décès dans leur famille. Et bon, on dit que c'est la mise en accusation de la médecine. C'est faux. De toute façon, ces affaires de santé publique, c'est pas le face-à-face avec un médecin patient. Ce sont les autorités sanitaires qui sont mises en cause. Et là, c'est pour ça aussi que c'est très long, ce sont des investigations assez longues et difficiles. Dans l'affaire de l'hormone de croissance, il y a eu un médecin mis en examen, c'était très particulier pour un cas, mais tout le reste, c'était des décideurs qui pouvaient alerter alors qu'ils savaient et qu'ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, c'est une espèce de transparence qui se fait maintenant sur les décisions des autorités sanitaires. Voilà.
Donc au bout d'un mois, il est sorti du coma. Et là, on est reparti. Voilà, c'était bon, c'était fini, il était sorti du coma, tout allait bien. On allait pouvoir le soigner parce que nous, on était sur une autre planète. Il avait beau être maintenant paralysé par les moments où il n'avait pas été oxygéné pendant ses comas. Il respirait par trachéotomie, il était nourri par jéjunostomie, donc par le ventre. Donc il était quand même super appareillé, mais on s'est dit que c'était bon, quoi. Donc avec ma mère, on est parti au Luxembourg voir un médecin qui nous a parlé des métaux lourds, de l'intoxication, de comment fallait faire et de sûrement essayer de se mettre en relation ou avec le Luxembourg ou peut-être avec l'Allemagne. Donc du coup, j'ai fait continuer mes recherches sur Internet et là, j'ai trouvé le docteur Mutter, donc qui avait l'air de traiter ce genre de pathologie en Allemagne au CHU de Freiburg. Donc, au bout d'un moment, est venu le jour où on avait fini par avoir une place au CHU de Fribourg. Et nous, on avait affrété un avion personnel pour l'emmener. Donc, autant vous dire que c'était un peu n'importe quoi, parce qu'on n'avait pas du tout les sous pour payer tout ça. Enfin, si, on les avait juste pour l'emmener jusqu'à l'hôpital, en fait. Et ensuite, donc le transfert devait se faire. On était tous là, prêts à partir. Et le CHU de Limoges a transmis une note au CHU de Fribourg en disant qu'il avait une maladie nosocomiale qui était spécialement française, c'est-à-dire un staphylocoque, mais le staphylocoque français. Et comme à Fribourg, il n'avait pas de salle d'isolement ou de chambre stérile, il allait, lui, en venant, contaminer l'hôpital de Fribourg. Donc, ils ont refusé qu'il vienne. Donc là, une nouvelle fois, nos espoirs sont complètement explosés. Mais bon, on avait toujours une solution de rechange, donc on s'est dit, c'est pas grave. Maintenant, on s'en va du CHU de Limoges, on demande l'hospitalisation à domicile. Donc ils en avaient tellement marre de nous voir, je crois qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, ceux-là, on va finir par s'en débarrasser. OK pour l'hospitalisation à domicile. Et on est revenu, il est revenu en mai 2005 à la maison, et là on a commencé du coup à essayer de le soigner spécialement son intoxication aux métaux lourds, et là on a commencé à avoir des petits résultats, et là son état il s'est réaggravé, donc les petites avancées pendant l'été qu'on avait réussi à obtenir se sont amenuisées. Il est retombé dans une sorte de petit coma. Il a eu une crise de deux gestes avant. Il est parti en hypothermie et il est retombé dans le coma. Et là, cette fois-ci, quand le SAMU est venu, ils ont dit « on ne le ramène pas au CHU. vaut mieux qu'il reste là parce que vraiment cette fois-ci c'est fini quoi. Donc de toute façon nous on croyait jamais que c'était fini, donc vu par là où on était passé, on a dit bon bah c'est pas grave, on fait comme si de rien n'était, on continue à le nourrir, je sais pas, à le soigner normalement comme on a toujours fait, même si c'est un coma, si ça se trouve ça se passera comme les autres fois, il se réveillera du coma. Et puis on a fini quand même par appeler le CHU de Limoges. Et là, son réanimateur, en gros, est venu à la maison pour nous faire comprendre que c'était vraiment terminé. Et que moi et mon frère, on devait rentrer chez nous pour, pour être tous ensemble pour son départ.
Isabelle, tu es avocate et tu as dû arrêter ton travail à cause de ta maladie. Et tu étais aussi un des personnages de l'émission précédente. Et tu finissais l'émission en lançant l'idée d'un procès de santé publique. Alors où en es-tu maintenant ?
Alors la première question en fait, que je me suis posée, ce qui m'interpelle le plus et ce qui me révolte dans cette affaire, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à me faire soigner en France ? Pourquoi est-ce que j'ai dû aller à l'étranger pour trouver des médecins capables de me soigner ? Après mûre réflexion, je pense qu'en fait, j'en suis arrivée à cette conclusion que je pense que le problème fondamental, c'est que le débat s'est focalisé malheureusement sur la guerre pro-anti-amalgame. Et qu'à cause de cette véritable guerre, avec des arguments assez forts et intéressants des deux côtés, on en a complètement oublié la priorité qui est de soigner les victimes. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont malades et qui se sentent beaucoup mieux avec des médicaments qu'on appelle des chélateurs, qui sont des antidotes du mercure, du plomb également, mais surtout du mercure, et qu'on n'utilise pas en France. Pourquoi ? Vous imaginez, enfin, je donne toujours l'exemple d'un grand brûlé qui arriverait à l'hôpital, aux urgences. Vous n'imaginez pas un instant les médecins dire « je suis désolée, mais on ne sait pas qui a mis le feu. Après tout, plus personne ne met le feu aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Non, moi, tant qu'on ne m'aura pas expliqué d'où vient cet incendie, je ne soignerai pas la victime. » C'est exactement ce qui se passe pour nous, c'est en tout cas exactement le sentiment qu'on a aujourd'hui. On est malade, mais parce qu'il y a cette guerre pro-anti-amalgame, on nous refuse non seulement les outils de diagnostic, puisqu'on n'accepte pas de faire ce fameux test de provocation qui est la seule méthode actuelle pour doser les métaux lourds. Donc ça, non, en France, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et puis, on fixe des normes tellement élevées que de toute façon, personne ne pourra se retrouver intoxiqué officiellement en France, puisqu'il faut un taux de mercure 10 fois plus élevé dans les urines spontanées en France qu'en Allemagne, pour donner un exemple.
Maître Emmanuel Ludo, vous êtes l'avocat de plusieurs victimes du mercure dentaire et vous êtes en réunion avec la famille Sartou, savoir la maman Caroline, les deux filles Claire et Hélène et le fils Alphonse, et vous faites un point en cette rentrée.
Oui, comme on sait habituellement, c'est d'abord de faire le point de l'évolution de l'instruction, de savoir où en est l'instruction, ce qu'il y a de nouveau dans le dossier du juge d'instruction, qu'est-ce qu'on attend des actes qui ont été demandés par le juge d'instruction. Alors dans cette affaire-là, on a eu déjà une excellente nouvelle, si on peut parler d'excellente nouvelle dans un dossier comme ça, c'est que on a pu obtenir une première expertise qui a été faite sur les organes de M. Sartou qui ont mis en évidence une quantité très élevée de métaux, dits métaux lourds. Ça, c'est l'élément important. Et on connaît grosso modo l'origine, puisqu'on sait que M. Sartou, il a été consulté un dentiste quelques semaines avant que la maladie ne commence à exploser, et que ce dentiste-là a décidé de faire des gros travaux dans la mâchoire de votre mari, sans prendre de précautions, et il a fait exploser les métaux lourds dans la bouche, qui n'ont pas pu être absorbés par les urines et qui sont allés dans le sang et qui sont allés empoisonner Monsieur Sartou, lequel est mort dans des souffrances terribles, empoisonné par les métaux lourds. Mais malheureusement, la médecine de l'époque n'a pas su ou n'a pas voulu voir quelles étaient les causes exactes du mal de Monsieur Sartou. Alors, la prochaine étape, c'est une expertise qui est encore ordonnée, dans laquelle on va essayer de dire quelles sont les causes de la mort exactement, les soins qui ont été donnés, les prescriptions qui ont été données, de dire s'il y a eu des carences ou des anomalies. Donc tout ça, c'est en cours. L'étape suivante, ce sera au-delà du chirurgien-dentiste, ça sera de demander des comptes à la profession et de demander des comptes au pouvoir public. Parce que ce chirurgien-dentiste, lui, il travaille comme il a appris à travailler à la faculté, avec les gestes qu'on lui a donnés à la faculté et avec les précautions qu'on lui a apprises. C'est-à-dire, si on ne lui a pas dit de prendre des précautions lorsque l'on lime un amalgame dentaire ou lorsqu'on extrait un vieil amalgame dentaire, il dira, moi, écoutez, je suis de bonne foi, j'ai respecté les prescriptions de la profession. Donc, il va falloir effectivement aller plus loin dans la démarche qui est celle du juge d'instruction à l'heure actuelle. Ça rejoint le travail qui vise à comprendre comment s'est mis en place aujourd'hui le système des amalgames. Pourquoi est-ce qu'en France, on est si en retard dans le retrait des amalgames par rapport aux autres pays européens, notamment l'Allemagne et les pays du Nord? Et pourquoi le lobby du milieu dentaire freine des cas de fer pour qu'il n'y ait pas un véritable inventaire de la situation des amalgames en France? Alors, on a des éléments de réponse, puisque un ministre de la Santé célèbre, a dit il y a une bonne dizaine d'années maintenant, si on fait un véritable état des lieux et si on retire tous les amalgames des Français, ça va coûter 500 euros pour la sécurité sociale par assuré social et on va faire exploser la caisse d'assurance maladie. Voilà. Faut savoir que l'Allemagne a réglé le problème. Ce sont les labos qui ont accepté de mettre au pot et de régler la difficulté. Donc on en est là aujourd'hui, et je pense que pour la première fois, je ne me trompe pas, je pense que pour la première fois en France, il y a un juge d'instruction qui a à son dossier un décès et la preuve d'une intoxication aux métaux lourds. Voilà.
Avec l'histoire de Monsieur Sartou, on n'a peut-être jamais été plus en mesure de rapporter le lien de causalité entre des amalgames dentaires et une pathologie. Cependant, malgré les certitudes affichées de l'avocat de la famille, ce lien reste encore à prouver. Ce sera tout l'objet de l'expertise en cours. Notre enquête ne démontre donc pas que le malade était intoxiqué par ces amalgames dentaires. Elle ne démontre pas non plus le contraire. Toutefois, il est un fait que l'intoxication par les métaux dentaires n'a jamais été envisagée par la médecine, et il est un fait qu'aucun test de provocation des métaux lourds n'a été proposé à M. Sartou de son vivant. C'était les Mercuriens 2, la naissance d'un procès de santé publique. Avec Mme Berthella Geffroy, juge d'instruction au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris, Maître Emmanuel Ludo, Marie Grossman, Claire Sartou, Jean-Paul Davidas et Isabelle Montigny. Merci aux personnes qui ont laissé des messages au 01 43 29 99 60. Nous vous rappelons les dangers d'un retrait des plombages sans précaution et vous invitons à lire le livre de Françoise Cambérac, Vérité sur les maladies émergentes. Attachée de production, Christine Gage, Laure-Hélène Plancher. Sur les docks, Yvon Croisier, Inès Leroux.
C'était Sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Vous pouvez retrouver nos émissions en allant sur le site franceculture.com.
Demain, c'est notre rendez-vous Champ Libre et il y sera question d'amour avec un documentaire de Marie Capucine Dis et d'Ify Mariani intitulé « Ma plus belle histoire d'amour, 80 ans et enfant de bohème ».